Totem, le club 100 et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Excellente soirée avec nous, avec le club 100 et or, avec Jean-Charles Virlogeux. Bonsoir.
Bonsoir.
On va revenir évidemment sur la rencontre de ce samedi avec notre invité Wanis Taibi, numéro 10 de Rodez. Bonsoir.
Bonsoir.
On va revenir évidemment sur la rencontre qui nous intéresse face à Angers, un club que vous connaissez bien. On aura l'occasion d'en reparler, Jean-Charles.
Oui, avec cette défaite de 2-1, tout avait pourtant bien commencé pour Rodez et même pour le mieux. Quelle entame de match, sérieusement, de la part des 100 et or. Le mot d'ordre d'ailleurs, Wanis, c'était d'attaquer fort, c'était ce pressing haut où on a vu que les Angevins n'arrivaient pas à s'en sortir.
Ouais, le coach nous a dit de vraiment bien rentrer dans le match, de leur mettre la pression, de ne pas les laisser jouer. Et je pense qu'on l'a bien fait, mais après on a mal géré nos temps faibles.
Début de match donc récompensé par l'ouverture du score de Kylian Corredor. D'ailleurs, vous êtes à l'origine de cette action, Wanis. Vous l'avez senti, ce coup-là, cet appel d'Andreas Otunji?
Otunji, c'est facile avec lui. C'est un joueur qui fait beaucoup d'appels. Il demande souvent le ballon comme ça. On sait qu'on a juste à la mettre en profondeur et lui, il va faire l'effort à aller prendre le ballon. Et ouais, on travaille souvent à l'entraînement. Ouais.
Alors, on va s'arrêter un instant. C'est quoi un joueur facile? Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs avec qui on a moins d'affinité, plus d'affinité? Sur le terrain, j'entends?
Pas forcément, mais lui c'est vraiment un joueur où il demande tout le temps la balle en profondeur. Mmh. Et la profondeur, c'est pas très compliqué de mettre dans des, il faut juste la mettre dans des zones, on va dire. Mmh. comme le coach le dit, dans des carrés. Et avec Andreas, il nous parle souvent à l'entraînement, il nous demande tout le temps ce genre de ballon et après c'est plus facile là pendant les matchs.
Donc c'est quelque chose qu'on travaille. Ouais. Et qui, au fil des séances d'entraînement, il y a des automatismes qui se créent et on peut le reproduire en match.
Ouais, c'est ça. Okay. Exactement.
C'est plus difficile de la donner dans les pieds. Ou c'est plus difficile en fait d'avoir un joueur qui tantôt la veut dans la profondeur et tantôt dans les pieds?
Ça dépend des zones aussi, des zones du terrain, mais ouais, c'est plus facile à... Non, on va dire c'est pareil, mais ça dépend des styles de joueurs de chacun.
Oui, par exemple, on ne joue pas pareil avec un Andreas Otunji qu'avec un Clément Després. Ouais, c'est pas les mêmes profils.
Non, c'est ça.
Ok.
Oui. Effectivement, dans la profondeur, pour Clément Després, c'est pas l'idéal.
Non, c'est un joueur de ballon.
Ouais. En tout cas, Rodez est devenue la troisième équipe seulement à marquer cette saison au stade Raymond Coppa, où il y avait une superbe ambiance. Hein. On comprend d'ailleurs aussi, grâce à ça, pourquoi ça va bien à domicile pour le SCO. Et il s'en est fallu de peu pour que Rodez enfonce le clou d'ailleurs. Hein. Il y a eu cette frappe enroulée de Kylian Corredor également, malheureusement passée à côté. Il y a des regrets justement de ne pas avoir concrétisé davantage cette période de domination, Wanis?
Ouais, comme je l'ai dit, je pense qu'on a mal géré nos temps forts, temps faibles. Mm-hmm. Je pense que pendant les temps forts, on aurait dû marquer, plus enfoncer le clou. Et on a mal géré nos temps faibles à encaisser ces deux buts.
Mm. On avait demandé à votre coach d'ailleurs si contre Laval, le plus embêtant, ça avait été de ne pas davantage marquer ou d'avoir pris trop de buts. Et il avait été catégorique. Laval avait très bien défendu. Et quand vous réussissez à mettre un but à ce genre d'équipe, la mission, le devoir derrière, c'est de ne pas donner de but vous-même. C'est un peu plus partagé cette fois-ci hein, pour votre coach qui effectivement regrette que Rodez n'ait pas tué le match hein, face à Angers. Parce qu'après, effectivement, on a vu que le SCO avait repris ses esprits et le match a changé un peu de ton. Vous diriez aussi qu'après cette entame vraiment très physique, c'était dur de tenir ce rythme plus longtemps?
Ouais, c'est sûr. Après, c'est sûr que c'est une bonne équipe surtout. Que déjà, à domicile, c'était sur une très grosse série. Que c'est une des meilleures équipes du championnat et ouais, ça nous a pris beaucoup de jus, je pense, l'entame de match. Après, c'était sûr qu'on allait avoir des temps faibles, mais ouais, voilà, on les a mal gérés.
On le dit souvent, ça d'ailleurs, hein, quand une équipe presse comme des malades, on dit que ça ne pourra pas durer en permanence.
Minutes, ouais.
En gros, combien de temps une équipe peut tenir à jouer ça, à jouer comme ça?
Je sais pas, je pense que là, peut-être qu'on aurait pu peut-être le faire en deuxième période, parce qu'en fin de première période, on a eu un gros temps faible.
Ouais.
Mais ils sont vraiment bien rentrés dans leur mi-temps, comme nous, on les est rentrés lors de la première mi-temps.
Oui, ils vous ont un peu rendu la monnaie de la pièce, on dirait.
C'est ça.
Un temps faible qui correspond un peu avec la sortie d'Andreas Otunji. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rassurer? Est-ce qu'il va bien?
Ouais, il va bien. Il a fait des examens ce matin et c'est pas très grave. Il a eu une petite gêne, mais c'est pas très grave.
Sorti donc à la 38e minute de jeu de cette rencontre face à Angers, remplacé par Clément Després. On parlait des profils d'attaquants, justement. La différence entre Andreas Otunji et Clément Després que l'on a évoqué il y a quelques instants, ça a pesé, ça, cette sortie un peu prématurée de la part du joueur prêté par Caen?
Ouais, je pense que ça nous a fait mal un peu, parce qu'on a, dans la profondeur, on leur faisait beaucoup de mal à Angers. Et on a beaucoup travaillé avec Otunji à l'entraînement et le fait que ça a duré juste 30 minutes, ça nous a fait un peu de mal.
Eh oui, ça a anéanti les plans qui avaient été travaillés assez vite. Et c'est vrai que sur le coup de mou, on a senti, notamment en deuxième mi-temps, que c'est plus le SCO qui interceptait les ballons et plus Rodez. Mais vous allez quand même tenir le choc pendant toute la première mi-temps. On a d'ailleurs senti davantage d'implication défensive après la mise au point de votre coach la semaine dernière. Il paraît que Didier Santini a vraiment insisté là-dessus après les erreurs de Laval. Vous confirmez que vous en avez pris un peu plein les oreilles ?
Non, il a insisté parce qu'on prend beaucoup de buts sur des erreurs de notre part. On leur donne un peu les buts. Et il nous a dit que ça joue à des détails, qu'il faut être, c'est plus dans le mental que dans les actes, on va dire. Et qu'il faut être vraiment concentré à chaque action et pour ne pas laisser le moindre action à l'adversaire.
Mmh. Il a été un peu plus sévère dans le ton aussi, parce qu'il nous expliquait avant ce match que parfois, peut-être, il était trop sympa avec ses joueurs.
Plus sévère, je ne sais pas, mais il nous l'a bien fait comprendre, on va dire. Il a bien fait comprendre.
Bon, malheureusement, on va y revenir. La poussée de Angers va payer. D'ailleurs, malheureusement, Rodez est l'équipe qui encaisse le plus de buts en première période. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette stat, Wanis.
Non, je savais qu'on était une des pires défenses du championnat, mais pas de cette
stat. En première mi-temps, c'est confirmé. Vous êtes l'équipe qui prend le plus de buts depuis le début de la saison. Le SCO qui va donc revenir juste avant la pause dans le temps additionnel, d'ailleurs. Un ballon repris de la tête par Lopi. Là-dessus, vous diriez que c'est juste un duel perdu et donc malheureusement, ça peut arriver dans le football. Ou alors est-ce que c'est une erreur défensive un peu coupable ?
Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que on n'est pas. Il était un peu seul, mais on doit être au duel. Mais c'est aussi. C'était un bon centre. Il était placé au bon endroit. Il a mis une belle tête. Mais je pense que je dirais que c'était un mélange des deux.
Est-ce qu'à ce moment-là de la partie, est-ce que dans les arrêts de jeu d'une première période, on se doit de tout simplement pas commettre ce genre d'erreur ?
Bah oui, je pense que ça nous a vraiment fait mal. On aurait dû vraiment. Tout faire pour ne pas prendre de but et pour repartir en deuxième mi-temps avec la victoire, en menant au score. Je pense qu'on serait mieux rentré dans le match, je pense.
Ouais. Alors, on rappelle, sur ce but, le ballon qui atterrit pile entre Bradley et Angers, qui est trop court, et Serge-Philippe Royao. On s'est posé beaucoup de questions, d'ailleurs.
Il est dans la bonne zone, c'est vrai, il faut le préciser.
Ah oui, bonne zone. Complètement. On s'est posé beaucoup de questions sur l'état psychologique dans lequel allait être Serge-Philippe après le feuilleton de son vrai faux départ. Dans sa tête, il était probablement parti. C'est ce que nous a confié Didier Santini la semaine dernière. Alors bon, c'est vrai que il rate aussi son duel en glissant au départ du deuxième but, mais on l'a trouvé assez focus finalement en général sur ce match. C'est aussi votre avis ?
Non, nous à l'entraînement, même au match de base, il était depuis le début, même avant le début du mercato, il disait qu'il était là pour rester jusqu'à la fin de la saison. Après, il y a eu le feuilleton où il a eu l'occasion de peut-être de partir. Mais non, il est focus avec nous, il est là pour qu'on fasse une bonne saison et maintenir nos objectifs.
Quand on est joueur de foot, quand on est dans un groupe comme Rodez, est-ce que cette période-là, la période de transfert, la période hivernale, ça peut amener un petit peu de tension, des discussions différentes au sein du groupe ?
Non, franchement, je n'ai pas senti de tension ou quoi. Il y a tout le monde qui était là pour rester, il n'y a eu que le feuilleton pour Serge, mais sinon, c'est tout.
Et vous ne l'avez pas senti démobilisé, plus
non,
que ça ?
Non, du tout.
C'est resté le même ?
Oui.
Ok.
Un drôle de feuilleton, effectivement, parce que même Didier Santini nous disait, pour moi, il allait partir, j'étais sûr de le perdre, et il avait commencé à préparer ce match en partant du principe qu'il ne pourrait pas compter sur lui. Il a fallu changer les plans au tout dernier moment.
Il a défait ses valises, il est resté.
Comme quoi, jusqu'à la dernière minute du mercato, les choses peuvent bouger. Sur le deuxième but, du coup, de cette équipe d'Angers, Rodez a été piégé dans la profondeur. On parlait de l'atelier vigilance défensive de la semaine dernière et notamment de la passivité sur les coups de pied arrêtés. C'était mieux cette fois, mais on a l'impression que finalement, quand on règle un problème défensif, il y a l'autre qui revient. Deux problèmes qui obéissent quand même à un constat pour votre coach, c'est un peu trop de passivité, effectivement, dans l'attitude défensive.
Le problème de la profondeur, on l'a eu contre le Paris FC, on l'a eu contre Amiens, on l'a eu contre Pau. C'est un mauvais alignement, c'est où est le ballon, c'est il y a un mec décroche pas, puis d'un coup il y a un mec qui est à l'opposé qui couvre de 3 mètres alors que et l'autre il joue le hors-jeu, qui c'est qui joue le hors-jeu, c'est celui à l'opposé, c'est pas celui qui est d'un côté. Tu vois, c'est tout un travail à discuter. Et c'est un peu le défaut de cette équipe et de nous et de ces joueurs et je leur ai dit, donc c'est là où il faut des patrons. Comme j'ai dit, dans la phase de réparation à la 95e, le premier patron c'est le gardien, le deuxième c'est le capitaine. Quoi. Il y a un moment, il faut vous bouger. Quoi. Il faut réveiller tout le monde, il faut haranguer, il faut parler, il faut gueuler, il faut prendre le mec par l'oreille, je sais pas moi. Il faut que dans ta tête, tu te dis c'est impossible. Côté, il y a des moments, tu sais qu'il ne peut rien t'arriver. Quoi. Et là, j'ai l'impression que souvent, mais c'est pas grand chose, c'est un petit détail, mais qu'on n'arrive pas à régler et qui est récurrent depuis pas mal de temps.
À la situation à la 95e minute, il revient évidemment sur le but encaissé face à Laval. Hein.
Oui, effectivement. C'est vrai qu'il évoque évidemment le gardien, le capitaine, mais est-ce qu'au sein d'un effectif, il n'y a pas d'autres sortes de leaders plutôt que des leaders que l'on peut reconnaître facilement avec un maillot distinctif ou alors avec un brassard de capitaine? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sortes de leaders sur un terrain?
Bon, si, il y a toutes sortes de leaders. Leader technique, leader avec la parole, leader défensif, ça dépend de chacun, mais il y a toutes sortes de leaders, oui.
Et leader avec la parole, ce n'est pas justement l'objectif? Est-ce que ça peut faire partie d'un de vos objectifs à court terme, moyen terme, long terme avec Rodez, de devenir un de ces leaders-là?
Bah oui, après il y a tout à améliorer, à travailler. Je pense que ça peut être un plus pour moi et pour l'équipe, mais ça viendra quand ça viendra.
C'est le caractère qui décide un petit peu de cette mentalité de leader?
Ouais, je pense que oui. Ouais.
C'est inné ou ça se travaille?
Un peu des deux, mais je pense que c'est un peu plus inné quand même, ouais. Mais ça se travaille. Ouais.
Et du coup, vous vous sentez comment dans ce registre-là?
Bah moi, on va dire que c'est pas inné. Je pense que je suis plus un leader, c'est un grand mot, mais avec le technique, avec le ballon. Je ne vais pas beaucoup parler, mais si je peux le faire, bah, pour aider l'équipe, bah, je le ferai.
Plutôt réservé sur le terrain, mais on va dire plutôt à l'aise, balle au pied, plutôt qu'avec la parole.
C'est ça.
Ok. Le problème, justement, qu'a évoqué Didier Santini il y a quelques instants, parce qu'on pense que l'alignement, le marquage, les coups de pied arrêtés, ce n'est pas forcément votre mission première, puisque vous êtes plutôt un joueur à vocation offensive, mais c'est aussi un peu de votre rôle, de votre tâche?
Bah, je pense que c'est le rôle de tout le monde. On peut tous, à un moment donné au match, être à cette position-là. Du coup, il faut le travailler en entraînement pour pas faire les mêmes erreurs que les autres, on va dire.
Donc, ça se travaille.
Ça se travaille,
ouais. Et pour n'importe quel joueur sur le terrain.
Oui.
OK. On va s'intéresser maintenant à un rendez-vous qu'apprécie tout particulièrement Jean-Charles Vire-le-Jeu, que vous ne connaissez pas parce que c'est la première fois que vous venez chez nous dans nos studios. Je vous le laisse le découvrir. C'est le rendez-vous de la question à la con. Oui, on a changé un peu le jingle, Jean-Charles. Ah oui. C'est pour notre plus grand plaisir. Vous l'avez reconnu, c'est la voix de votre président, évidemment, Pierre-Olivier Murat, qui s'était livré en conférence de presse et qui avait répondu à une question d'une personne qui se situe sur votre gauche.
Oui, alors effectivement, on parlait de votre rôle sur les situations défensives. C'est pas forcément à vous qu'on pense en premier. On dit souvent que les attaquants sont les premiers défenseurs. Bon, les défenseurs, forcément, ils défendent, c'est leur mission première. Et un numéro 10 comme vous, finalement, il a un rôle défensif quand même. Il a des tâches défensives.
Oui. Bah oui, je pense que beaucoup aussi. Bah, le poste de milieu, c'est le poste où, avec les pistons, où on court le plus, on va dire, sur le terrain. Et ouais, on doit faire beaucoup d'efforts à sortir sur les autres milieux ou anticiper sur... remplacer d'autres personnes, on va dire. S'il y a un défenseur qui n'est pas là, on doit faire les efforts pour combler les trous, on va dire. Mm-hmm. Et ouais.
Vous êtes une sorte de deuxième lame, derrière les attaquants, quoi, finalement.
C'est ça.
Vous voyez plus comme 10 ou comme 8, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une grosse différence?
On rappelle que sur le maillot, vous avez le numéro 10.
Ouais. Bah, ça reste, c'est qu'un numéro, on va dire, mais je suis plus un 8, ouais. J'étais un 10 quand j'étais plus jeune, mais je suis plus un 8 maintenant.
Ah, tiens, expliquez aux gens qui ne connaissent pas bien. Ouais, voilà.
Bah, un 8.
Est-ce qu'il y a déjà des grosses différences selon vous?
Non, pas forcément.
C'est sur la position plutôt?
Ouais, sur la position. Ouais. Bah après, je pense qu'un 10 va faire un peu moins d'efforts défensifs qu'un 8. Mmh. Parce que les 8, il y en a deux, ils doivent défendre sur le côté où il est placé. Et un 10, ça va être plus dans l'axe, il va un peu moins courir. Mais...
Rappelons que le système de Rodez, c'est avec normalement au milieu de terrain une pointe basse et deux pointes un peu plus avancées.
Ouais,
un numéro 6 qui est considéré comme un milieu sentinelle, 10 sentinelles, on va dire, à peu près. Vous confirmez
ouais,
à peu près.
C'est ça.
Et deux joueurs un peu plus avancés au niveau du milieu de terrain qui sont considérés comme des milieux relayeurs.
Ouais, donc il y a pas vraiment. On a un peu de 8 finalement.
Voilà, c'est deux numéros 8 et il n'y a pas vraiment un numéro 10 plus qu'un autre.
Après, forcément, il y aura des 8 plus défensifs, des 8 plus offensifs.
Ça dépend des profils.
Ça peut dépendre des profils, mais ouais, c'est ça.
Mais. Une fois établi sur la composition d'équipe de Didier Santini, c'est 2-8.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, on leur demande les mêmes caractéristiques une fois sur le terrain aux deux personnes qui occupent ces deux postes-là.
Ouais.
Voilà pour les petites explications.
On parlait de patron tout à l'heure sur le terrain. Il en faut un. Didier Santini en cherche toujours un, quelque part.
Vous postulez pas, Jean-Charles? Non.
Il faut qu'il joue. et dans les situations de jeu qu'on a évoquées tout à l'heure, les fameux coups de pied arrêtés, il a clairement expliqué. Qui devait endosser ce rôle? Il a dit le gardien, le capitaine. Mais à défaut, finalement, si personne ne donne de la voix, s'il n'y a personne vraiment qui a le caractère, eh ben, vous le demandiez tout à l'heure, Corentin, est-ce qu'on peut être un patron autrement? Ben, on peut aussi jouer les patrons dans le geste pour lancer le harcèlement. Alors là, je parle des coups de pied arrêtés, quand il faut sortir sur les défenseurs, sortir sur l'adversaire. Mais là aussi, pour Didier Santini, il y a encore du boulot.
Manque de, de cadrage, de harcèlement, de décrochage, mais ça ne se joue à rien des fois. Et ça, tu as beau expliquer les choses, ils ne sont pas bons. Mais clairement, il faut qu'ils sortent. On ne peut pas rester à 5 pour un joueur ou à 3 défenseurs centraux pour un joueur. Si à 3 défenseurs centraux, tu as un joueur, il y a un joueur à dire, ce deuxième, il passe en 10 ou il décroche de 15 mètres, ben, il y a un mec qui va le chercher. Puis à un moment, tu le passes à quelqu'un, mais tu vas le chercher. Tu restes à 2 pour 1. Mais en restant à 3 pour 1, je ne vous rassurez pas du tout. Hein. C'est l'endroit où vous êtes le pire. Si je sors, même si je vais me trouer, j'ai des mecs qui réagissent derrière tout de suite. Mais si je sors pas, il y a tout le monde qui dort. Et ça, c'est notre défaut. Et ça, on travaille. Je peux vous dire, on n'arrête pas. Et je trouve que Stone le faisait très bien. Il sort à un endroit où peut-être il fallait pas sortir, mais le fait de sortir, il a fait avancer le bloc, il a fait resserrer le bloc et il a empêché une passe et il a obligé une passe là. Je me bats, j'en parle. Donc j'en parle aujourd'hui parce que c'est bien parce qu'il n'y a plus de transfert, il n'y a plus rien. Et que tout à l'heure, je leur ai dit qu'il va falloir régler les choses et poser les uns sur la table et se lâcher et aller chercher.
Poser les fameux sur la table, c'est une question de courage, ça, Wanis Taibi ?
Ouais, c'est ça, je pense. Il parlait de ça.
Ouais, c'est du courage, avoir la détermination nécessaire pour justement ne pas concéder d'occasion en sortant sur l'adversaire.
Ouais, c'est ça. Mais après, comme il a dit, c'est des détails, ça se travaille. On le travaille à l'entraînement tous les jours et je pense que petit à petit, ça va se régler.
Bon, en tout cas, c'est une question de courage parce qu'on risque de contrer un tir, c'est ça, de s'en prendre un à bout portant, j'allais dire.
Non, pas forcément. Je pense que c'est plus après pour ça va ouvrir. Ils ont peur peut-être que ça ouvre derrière ou quoi que ce soit, mais c'est pas par rapport à ça.
D'accord.
Ouais, c'est plus pour justement faire l'effort nécessaire. Voilà, la récompenser cette fameuse prise de risque qui est déterminée sous ce courage-là. Bon, en tout cas, Didier Santini qui a fait plaisir à nos oreilles les plus prudes, hein, puisqu'il a
marqué il fait souvent ça.
Petit temps d'arrêt.
Soit il le dit moins fort, soit il le dit pas du tout.
Bon, bah parfait. En tout cas, ce match, c'était une première pour Rodez. Une défaite après avoir mené. Rodez ne se fait pas souvent remonter. Jusqu'ici, vous aviez souvent eu le cas inverse, et notamment au match aller face à Angers. Vous étiez mené à la mi-temps, puis vous aviez réussi à renverser la vapeur 4-1 à Paul Lignon. Vous n'aviez concédé qu'un nul après avoir ouvert le score. C'était face à Ajaccio, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était au tout début du championnat. Donc ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Est-ce qu'il y a des explications, des raisons que l'on peut avancer ?
Non, pas forcément. Je pense que à domicile, on a une grosse force mentale quand on arrive à remonter le score. Mais non, on a joué contre une bonne équipe et voilà.
Ouais, la différence mentale, elle se fait vraiment quand on est à l'extérieur, quand on est à domicile ? Ça y joue vraiment ?
Je pense que oui, eux, ils sont à domicile, ils ont tout le public avec eux, ça les pousse. Du coup, ils rentrent plus facilement dans leur match comme nous quand à domicile. Je pense que ouais, ça joue beaucoup quand même.
Il y a des joueurs que ça motive de jouer à l'extérieur parce qu'ils se sentent un peu, alors le mot est fort, mais un peu conspués, voire même un peu critiqués. Vous, ça vous...
Rémi Boissier, on sait, adorait ça. Hein. Il aimait bien se faire cracher dessus.
L'ancien Ruthénois, ouais.
Non, moi j'aime bien jouer à l'extérieur comme à domicile. Après, à domicile, t'es devant tes supporters, tu veux leur faire plaisir, mais je donne autant à domicile qu'à l'extérieur.
On est d'accord, vous préférez vous sentir un peu plus soutenu que critiqué.
Ouais, c'est sûr, ça fait toujours plaisir.
Okay. C'est vrai que pour l'anecdote, Rémi Boissier nous avait confié, c'était au cours de la saison dernière, ou il y a deux saisons,
en Corse, hein,
à Bastia, il avait reçu quelques crachats, il nous avait dit au micro, lors d'un corner frappé, et il nous avait livré cette anecdote en disant, mais moi ça m'avait motivé.
Non, ça me dérange pas, ça me fait pas peur quand on me crie dessus ou quoi, mais...
Ouais, il faut quand même qu'il
y ait de l'ambiance.
Ouais, une petite limite. Quand même. Ouais.
Okay. C'est vrai que Didier Santini avait dit un jour, mes joueurs, il leur faut de l'ambiance, qu'elle soit hostile ou positive, mais de l'ambiance.
Il faut de l'ambiance.
Ouais. Alors c'est vrai qu'à la décharge de Rodez, il faut reconnaître que les deux derniers matchs, vous avez quand même joué des costauds, la meilleure équipe à la maison et la meilleure équipe à l'extérieur. Donc on peut comprendre que ce soit des challenges relevés. Un mot sur l'arbitrage, tiens. Et d'ailleurs, on va rester sur les deux matchs, parce qu'il a beaucoup moins fait parler chez les observateurs, l'arbitrage de ce week-end, que celui de Laval. On avait évoqué, d'ailleurs, la semaine dernière dans le club, la nécessité pour l'homme en noir de ne pas rajouter de la tension. Ça s'est bien passé avec M. Abed, globalement ?
Ouais, j'ai pas senti. Il n'a pas fait de grosses erreurs, j'ai pas senti de tension avec lui. Non, ça s'est très bien passé.
Et dans le relationnel, ouais, parce qu'on avait l'impression de le voir un peu tout en rondeur.
C'est vrai que c'est un arbitre où on ne peut pas trop parler avec lui. Mais après, moi, je ne suis pas du genre à trop aller parler avec les arbitres. Du coup, je reste dans mon match et voilà.
Mais il n'a pas, donné l'impression de s'offusquer, en tout cas, quand on discutait avec lui.
Non,
dans le body language, comme on dit, c'était moins crispé que la semaine d'avant.
Franchement, ça s'est bien passé.
À titre de comparaison, ça pouvait que mieux se passer par rapport à la semaine dernière contre Laval.
Tout à fait. Tiens, on va faire le point au classement. Rodez qui bascule dans la deuxième moitié de tableau, 12e place que Rodez n'avait plus occupé depuis... Tiens, est-ce que vous vous rappelez depuis quand vous n'étiez pas descendu jusqu'à la 12e place ?
pense que ça devait être, on va dire, dans les 2-3 premiers matchs, 3-4 premiers
matchs. Vous n'êtes pas loin, c'était la 5e journée, donc à la rentrée. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Le plus important, évidemment, c'est de regarder la marche sur la zone rouge. Elle se resserre un peu, évidemment, parce que les mal classés se rebiffent. Hein. Bastia, hier, Quevilly, Annecy, Dunkerque. On va évidemment avoir l'occasion de reparler de Dunkerque. L'écart est quand même encore de 8 points. C'est un matelas qui n'a pas toujours été plus confortable pour Rodez cette saison. Mais c'est vrai qu'il était monté aussi plus haut. À l'issue de la 21e journée, vous aviez 12 points d'avance sur la zone rouge. Si on veut résumer, on va dire que Rodez l'écureuil a bouffé quelques-unes de ses noisettes. Mais après avoir joué deux cadors sur leurs points forts, qui plus est, il en reste quand même encore des noisettes. Il va falloir penser à les économiser quand même, hein, Wanis. Pour ça, le calendrier qui arrive propose des adversaires plus modestes, mais certains sont en forme, hein, notamment celui qui arrive à Paul Lignon samedi, Corentin.
Effectivement, Dunkerque qui va se présenter à Paul Lignon, eh bien ça tombe bien pour avoir une présentation rapide de Dunkerque. Rendez-vous évidemment dans la deuxième partie du Club Saint-Héor, disponible sur nos réseaux sociaux et notamment sur le site radiototem.fr. Merci Wanis pour cette première partie, vous restez avec nous évidemment pour la deuxième partie consacrée à Dunkerque. Match, on rappelle, à Paul Lignon, ça sera ce samedi à 19h contre Dunkerque, et pour en savoir plus concernant cet effectif maritime, eh ben rendez-vous dans la deuxième partie du Club Saint-Héor.
Totem, le Club Saint-Héor. Totem, le Club Saint-Héor. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Deuxième partie du Club Saint-Héor avec Wanis Taibi numéro 10 et milieu de terrain du Rodez Aveyron Football qui nous a livré, hein, dans la première partie qu'il y avait un rôle différent entre le numéro 8 et le numéro 10. Et on a bien compris que pour l'instant, c'était plus un numéro 8 que nous avons en face de nous. Plus un numéro 10 dans sa jeunesse, mais plus un numéro 8 maintenant.
C'est l'expérience.
Et d'après les infos et d'après les carrières, plus le temps avance, plus on recule d'un cran. Peut-être que vous allez finir dans l'axe de la défense centrale.
À Angers, j'ai beaucoup joué défenseur. Hein.
C'est vrai ?
Ouais. J'ai dépanné beaucoup latéral droit, défenseur central.
Bon, on ne sait jamais. Il y a des reconversions qui n'attendent pas. 8, ça vous plaît quand même ?
Ouais.
Défense centrale, ça vous plaît aussi ?
Non, moi.
Un peu moins. Bah, c'est pas le même jeu, effectivement. On va s'intéresser à votre prochain adversaire. C'est Dunkerque qui se présente à Paul Lignon ce samedi. Le club du Nord qui reste sur une belle perf, hein, contre Saint-Etienne samedi dernier et qui d'ailleurs aura quelques heures de récupération en plus par rapport à vous, car ils ont joué à 15h pour la 23e journée Ligue 2 BKT. Grâce au premier but d'Opa Sanganté sous les couleurs maritimes, 1-0, victoire face à...
Un but qui a fait couler de l'encre, hein, encore, décidément.
Oui, ça a fait couler de l'encre, notamment au niveau des décisions arbitrales. Mmh. On n'en dira pas plus parce qu'on sait de quoi les arbitres sont capables en Ligue de BKT. Donc on va taire ce sujet, Jean-Charles.
Ça ressemble une chouillette, effectivement, au but deuxième but de Laval. Hein. Il y a un peu de ça aussi.
Il y a un peu de ça, effectivement.
Soit un arbitre derrière les buts, soit la VAR. Mais la VAR, c'est pour l'année prochaine.
Il y avait eu un cinquième arbitre, un quatrième et cinquième arbitre dans les surfaces de réparation.
Qui était derrière, et précisément pour ce genre
de... Oui, pour ça.
Ouais.
Pour régler ces litiges-là. Et la VAR, c'est vrai, vous l'avez précisé, Jean-Charles, elle fera son arrivée normalement l'année prochaine en Ligue 2. Favorable, pas favorable à la VAR ?
Favorable.
Et à la sonorisation des arbitres, favorable, pas favorable ?
Favorable, peu importe. Je pense que c'est mieux pour tout le monde.
Dunkerque, 18e avec 23 points, mais qui reste donc sur une dynamique plutôt positive. Ils sortent de 3 victoires en 3 matchs. Ajaccio, Paris FC et donc Saint-Etienne, leur seule défaite de 2024, c'est en Coupe de France, en 16e de finale contre le Puy. Autant vous dire que ça va être un sacré client ce samedi. Preuve du nouveau souffle, Arnaud Baligeon, le gardien de cette équipe, signe un deuxième clean sheet d'affilée. Ça n'était plus arrivé pour le club de Dunkerque depuis septembre 2020. Autant vous dire que ça remonte à quelques mois maintenant. La période des transferts a été calme côté Rodez, on en a parlé, avec seulement une arrivée, aucun départ. On peut pas dire forcément la même chose du côté de Dunkerque. Le club de Ligue 2 le plus actif dans le sens des arrivées lors de ce mercato. Dunkerque qui peut compter sur un apport immédiat de 8 renforts hivernaux, dont notamment un homme d'expérience, Gaëtan Courté, sur le front de l'attaque des Maritimes. 4 départs à mettre à leur actif. L'une de ses conséquences est évidemment le turnover, les joueurs utilisés, 34 depuis le début de la saison. Seul Valenciennes a fait pire avec 38 joueurs utilisés depuis le début de la saison. Et pour l'instant, on peut pas dire que ça porte les fruits puisque Valenciennes est dernier de Ligue 2.
Ils ont gagné un match, hein, je crois.
Ça nous rappelle des mauvais souvenirs, Jean-Charles, évidemment, puisque l'une des victoires de Valenciennes, c'était notamment à Paul Lignon, là où le gardien de Valenciennes avait fait un match extraordinaire. Je ne sais pas si vous en souvenez, Wanis, mais il avait été extraordinaire ce jour-là, victoire 1-0 de Valenciennes sur la pelouse de Paul Lignon, si je ne m'abuse. Vous me rattrapez si je dis des bêtises. On constate que les joueurs, les effectifs qui ont le plus fait tourner au niveau des joueurs ne sont pas forcément les équipes les mieux classées au moment où on se parle, puisque Valenciennes est dernier, Dunkerque est dans la charrette, comme on dit, dans les quatre équipes qui seraient potentiellement reléguées en fin de saison.
Ce sont des équipes qui se cherchent, quoi, et qui cherchent la solution, qui ne la trouvent pas.
Et qui ne font peut-être pas confiance à un 11 type. Est-ce que justement c'est un problème de ne pas avoir un 11, de ne pas avoir des joueurs qui se dégagent dans un effectif selon vous, Wanis?
C'est toujours mieux de jouer avec un 11 type. C'est un grand mot, mais on va dire 15-16
joueurs.
Une base de joueurs pour garder les automatismes. Mais Dunkerque prouve le contraire. Il reste sur 3 victoires d'affilée et la saison elle est encore longue.
Mais le mercato a peut-être commencé à porter ses fruits. Hein.
Ouais,
effectivement, mercato payant. Là aussi, c'est assez logique finalement qu'il soit actif. On se dit... Il faut vraiment qu'on change quelque chose.
Ouais, il faut trouver des solutions, effectivement. En tout cas, 34 joueurs utilisés depuis le début de la saison pour Dunkerque, c'est plus que tout l'effectif de Rodez. Donc autant vous dire qu'il y a encore de la marge pour le turnover du côté de Rodez. Depuis 2024, Dunkerque a utilisé 25 joueurs, le plus gros total de ces deux premiers mois de compétition de l'année 2024. Pour preuve, ils sont peut-être encore dans la fameuse recherche du 11 type.
Voilà, c'est pas étonnant qu'on s'y perde.
Oui, voilà pour le contexte autour de Dunkerque. C'est une équipe qui, du coup, a faim, qui est sur une bonne dynamique. Elle vous fait peur, cette équipe de Dunkerque?
Non, peur, non. Mais après, on regarde les équipes, on entame les matchs de la même façon que n'importe quelle équipe, que ce soit Angers, Laval ou Dunkerque. Mais on sait qu'ils sont sur une bonne dynamique. Du coup, il faudra faire un peu plus attention. Mais on a à domicile. Voilà.
Ouais, c'est l'occasion pour Rodez peut-être de se relancer, justement, ouais, puisque la dynamique n'est pas forcément ultra positive. L'occasion de mettre une nouvelle pierre à cet effectif, à cette saison de Ligue 2 et de continuer ou de redébuter une marche en avant.
Ouais, faut casser cette dynamique, cette mauvaise dynamique. Mais on ne s'inquiète pas puisqu'on a joué contre des bonnes équipes. Mais ouais, faudra une victoire à Polignan.
Ouais, ça serait évidemment top pour repartir sur de bonnes bases. Effectivement, coup d'envoi ce samedi 19h pour cette nouvelle journée de Ligue 2 BKT. On y sera évidemment pour faire vivre ce match dans l'intégrale 100h avec Jean-Charles Virlogeux. Club 100h à retrouver évidemment en podcast en intégralité sur notre site radiototem.fr. Wanis Taibi, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Passez une belle semaine d'entraînement et puis on vous retrouve samedi, on l'espère, titulaire.
Ouais, j'espère.
On espère, on croise les doigts pour vous face à Dunkerque.
Merci.
Passez une belle soirée.
Merci, bonne soirée.
Totem, le club sang et or.